Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Jean-Pierre Diaoué, président du groupe UNI au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes aussi signataire de l'accord de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Et nous allons parler bien sûr de la réforme constitutionnelle qui doit permettre l'inscription de ces accords dans la Constitution. Le texte a commencé son cheminement parlementaire. Le projet de loi a passé la première étape avec un avis favorable de la commission des lois du Sénat, mais ce n'est que le début de tout un processus. Et aujourd'hui, notamment après les réserves qui ont été émises par les parlementaires socialistes au travers d'une tribune, est-ce que vous êtes inquiet sur l'aboutissement de ce processus de Bougival au travers du Parlement ?
Alors, à votre question, oui, on a pris le temps, la délégation Union nationale pour l'indépendance, après la séquence de Paris qui a abouti à l'accord complémentaire. Nous avons pris le temps de prendre contact avec les groupes parlementaires à Paris, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour leur dire notre intérêt à ce que cet accord puisse aller à son terme. Donc, on a entendu les positions des uns et des autres, ceux qui disent que s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de consensus en Nouvelle-Calédonie, ça serait difficile d'avoir le consensus à Paris. Ceux qui disent que le prolongement, le report des élections provinciales en décembre 2026, c'est pas, c'est la légitimité des élus est posée questionne. Et puis, il y a ceux qui disent que l'accord de Bougival, c'est déjà un pas dans l'indépendance. Donc, il y a des positions différentes. Mais donc, pour ce qui nous concerne, oui, on ne sait pas. On sait qu'à l'Assemblée, au Sénat, ça risque, il n'y a pas de risque majeur. Mais à l'Assemblée nationale, effectivement, la question se pose.
Vous avez vu tous les groupes de l'échiquier politique. On sait que LFI est contre depuis le début, c'est très clair. Et puis, ils sont très près du nouveau FLNKS. Le groupe socialiste, est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous avez
On a rencontré le groupe socialiste, effectivement, Patty Kanner et les sénateurs, Arthur Delaporte également, pour, l'Assemblée nationale. Donc on leur a dit la même chose, que nous avons fait, nous avons assumé notre responsabilité en tant que partenaire calédonien et l'État, nous avons pris nos engagements, nous avons négocié et parvenu à un accord. On a mis 4 ans. Pour examiner la situation ainsi créée, on est parvenu à un accord. On a pris nos responsabilités. Maintenant, la balle est dans le camp des parlementaires, c'est à eux. S'ils jugent que, eh bien, même avec l'accord complémentaire, certains sujets ne sont pas assez précis, ou bien le calendrier indicatif n'est pas le bon, je veux dire, c'est à eux, parlementaires, de prendre leurs responsabilités. Les députés et les sénateurs demeurent le constituant. Et donc, s'ils veulent que des choses avancent, que ça aille dans un sens ou dans un autre, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'aller voir le gouvernement pour clarifier un certain nombre de sujets, en sachant que l'équilibre a été trouvé entre partenaires calédoniens. Donc ça, c'est nous ce que l'on souhaite nous. Pour ce qui concerne l'Union nationale pour l'indépendance, c'est de respecter l'accord trouvé par les Calédoniens et puis de faire en sorte à ce qu'on puisse passer cette étape du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Congrès de Versailles pour qu'à un moment donné, le juge de paix, que ce soit les Calédoniens. Parce que l'avenir et l'accord politique, ça concerne en premier lieu les Calédoniens.
Et qu'une consultation des Calédoniens est prévue après. Vous avez été surpris de cette prise de position des socialistes et comment vous l'interprétez ? Il laisse entendre qui ne sont pas favorables au texte, ils le disent clairement, mais on ne sait pas s'ils vont voter pour, s'abstenir, voter contre, ce n'est pas clair encore.
Pour le moment, on ne sait pas. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent que l'accord de Bougival soit préservé, soit sauvé. Et donc ils disent que poursuivre dans le calendrier prévu par le gouvernement, c'est aller droit dans le mur. Et donc ils veulent modifier et faire en sorte à ce que les élections provinciales puissent se passer en juin, et puis ensuite que les nouveaux élus viennent ensuite. Ça, c'est, je veux dire, aux auditeurs calédoniens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que, certains qui sont contre l'accord de Bougival, quand ils entendent la position des socialistes, ils sont contents. Mais la question qu'il faut bien se poser pour nos Calédoniens, pour l'avenir de notre pays, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que si on fait les élections et que les nouveaux élus doivent se remettre autour de la table pour reprendre tout à zéro. Parce que finalement, si ça passe pas, eh ben, l'accord de Bougival et son complément, ils tombent à l'eau. Donc, on reprend les discussions avec les nouveaux élus. Alors, sur quelle base? Sur la base de l'accord de Bougival que le FLNKS rejette en bloc, de revenir pour recommencer les discussions, revenir à la case de départ. Les loyalistes n'en veulent pas non plus. Et donc, si on fait reprendre les discussions et s'il n'y a pas tous les partenaires calédoniens autour de la table, eh bien, on va continuer à jouer au chat et à la souris jusqu'en 2027. Et en 2027, il y a les élections présidentielles. Et là, c'est l'inconnu.
Il y a peut-être qui joue la montre aussi. Naïm Mamoudchou dit que l'organisation des provinciales en juin prochain, la ministre des Outre-mer, elle souhaite le maintien du calendrier, évidemment. L'organisation de ces élections provinciales pourrait raviver les tensions et les clivages. C'est votre sentiment également? Ce serait dangereux de les faire dès le mois de juin?
Il faut éviter les tensions. Il faut éviter les tensions. Nous avons voté, pour ce qui nous concerne, la délégation Union nationale pour l'indépendance, nous avons voté le calendrier qui est compris dans l'accord complémentaire, parce que c'est la chronologie. C'est une chronologie qui va jusqu'à ce que la loi soit constitutionnalisée, que l'accord soit constitutionnalisé, et ensuite les Calédoniens sont consultés pour approuver... dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec l'accord de Bougival. C'est exactement comme l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, au moment où il a été soumis aux Calédoniens, on sait très bien que tous les Calédoniens, toutes les formations politiques à ce moment-là n'étaient pas d'accord avec l'accord de Nouméa.
Mais il a été approuvé par 72% des Calédoniens.
Il a été approuvé par 72%, et donc ça veut dire qu'il y a, il y a 28% de Calédoniens qui étaient contre. Mais les Calédoniens ont été consultés. Donc nous, on s'est dit, ben, nous, on s'inscrit dans cette démarche-là, on respecte les chronologies, et puis on dit, il faut qu'à un moment donné, que cet accord franchisse l'étape parlementaire et qu'il arrive aux Calédoniens pour que ce soit les Calédoniens, à un moment donné, qui se prononcent pour ou contre l'accord de Bougival et son complément.
Alors, chez les parlementaires, il y a aussi la droite de l'hémicycle, notamment le Rassemblement national, qui émet des réserves sur Bougival. Vous avez eu des contacts avec eux pour essayer de les convaincre?
On n'a pas eu de contact avec eux, mais on a eu des discussions avec Marine Le Pen quand elle est venue ici en Nouvelle-Calédonie. Eux, la position concernant Bougival, pour eux, l'accord de Bougival, il va trop loin. C'est un pas déjà dans l'indépendance avec l'état de la Nouvelle-Calédonie, avec une nationalité calédonienne, avec le transfert de la compétence des relations internationales, avec la loi fondamentale, la loi organique spéciale. C'est déjà pour eux, l'accord de Nouméa, il va trop loin. Et donc pour eux, c'est déjà un pas dans l'indépendance. Donc c'est la raison pour laquelle ils ne voteront pas le projet de loi constitutionnelle.
Votre conviction aujourd'hui, Jean-Pierre Diaoué, le texte va être adopté par le Parlement ou vous pensez qu'on est dans une impasse et qu'il va falloir tout refaire?
Franchement, je dois vous dire que dans la situation actuelle où on est, je pense que c'est difficile.
Et donc on verra, il reste encore quelques semaines pour ce processus parlementaire. Si on revenait au fond des accords eux-mêmes, quel est l'apport vraiment de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot par rapport à l'accord de Bougival? Le premier accord de Bougival, on l'a bien détaillé, il a été signé en juillet l'an dernier. L'accord complémentaire de janvier, les Calédoniens savent peut-être pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui change vraiment selon vous?
Alors je dois dire ici que l'accord complémentaire, c'était... la reprise des négociations sur un certain nombre de sujets, c'est à l'initiative de la délégation Union nationale pour l'indépendance. On a demandé à
vous
la
ministre. Vous aviez demandé des compléments et des précisions.
Compléments, oui. Et ils ont suivi la demande que nous avons faite. Donc on est revenu pour compléter notamment l'identité kanak, la reconnaissance de l'identité kanak et l'affirmation de l'identité calédonienne. Donc, quand on parle de l'identité kanak, de reconnaissance, mais c'est aussi la reconnaissance des identités plurielles dans le pays. Il n'y a pas que l'identité kanak, il y a aussi les autres identités. Donc, parce qu'on veut construire un pays ensemble, donc la reconnaissance de toutes les identités plurielles, et puis une identité calédonienne. Et puis, la possibilité pour les autorités, les structures coutumières, de parvenir à une auto-organisation, ça c'est la loi fondamentale qui devra le préciser.
Il y a l'autodétermination et le transfert des compétences régaliennes. C'est vraiment l'un des points sur lequel vous vouliez des modifications, des précisions.
C'est un des points sur lesquels on veut...
Ça vous convient, ce qui a été rédigé?
Alors, on n'a pas pu obtenir ce qu'on voulait précisément, parce qu'on voulait précisément qu'il y ait un filet de sécurité, exactement comme ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Si on n'arrive pas à déclencher par une majorité de 3/5 l'organisation de la consultation, que l'État, à un moment donné, puisse déclencher. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'accord de Nouméa. Et donc, on voulait un filet de sécurité. Mais les non-indépendantistes n'ont pas voulu. Ils disent, il ne faut pas que l'État intervienne, il faut que ce soit entre nous. Donc, on a trouvé ce processus qui dit que, eh bien, on va, dès la première mandature, faire en sorte à ce que les Calédoniens soient associés à l'exercice des compétences régaliennes. Donc, avec, bien évidemment qu'il faut, il y a la formation des gens. Il y a peut-être un dispositif à mettre en place, genre cadre d'avenir spécial compétences régaliennes, formation des hommes, et ensuite on identifie. À un moment donné, il y a un comité de suivi qui va se réunir annuellement pour voir mesurer le degré d'intervention des Calédoniens dans l'exercice des compétences régaliennes. Et à un moment donné, donc on se dit, les Calédoniens sont suffisamment intégrés ou participent suffisamment dans l'exercice d'une ou de plusieurs compétences régaliennes, et on évalue, on regarde si il y a possibilité de transférer cette compétence-là, mais on le fera d'une manière concertée, consensuelle, avec l'État qui est là pour nous accompagner. Et on peut identifier à ce moment-là le périmètre qui va être transféré et celui qui va être réservé à la France. Et on peut parvenir, pour ce qui nous concerne nous, de dire qu'on peut revenir à ce moment-là à ce qui est prévu dans l'accord qui a été discuté, pas l'accord, mais le projet qui a été discuté à Deva, dans le cadre d'un partenariat. Donc voilà ce qui est prévu. Ça nous permet de faire en sorte à ce que ces compétences, avant de les transférer, ils sont travaillés. Il y a une participation des Calédoniens et il y a un comité de suivi qui permet d'évaluer à chaque fois le degré de participation des Calédoniens. Donc c'est... voilà.
Alors certains souhaitaient, après la signature de Bougival, qu'il soit mis clairement que si l'ensemble des compétences régaliennes étaient transférées, ça équivalait à la pleine souveraineté.
Voilà, c'est exactement
pas la phrase que vous avez mise, qui a été mise dans l'accord complémentaire. Si l'ensemble des compétences régaliennes venait à être transférées à la Calédonie, les partenaires se réuniraient afin d'en tirer les conséquences sur la relation entre l'État et la Calédonie. Certains parmi les opposants, et notamment le FLNKS, estiment que c'est un verrou supplémentaire au transfert de compétences et à l'accession éventuelle à la pleine souveraineté. Vous ne voyez pas ça comme ça?
Ben nous, on aurait souhaité que ce soit dit comme ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa, qui dit que une fois que les transferts de compétences régaliennes sont transférés à Nouvelle-Calédonie, c'est synonyme de... Voilà, donc c'est les compétences.
Vous n'avez pas obtenu gain de cause là-dessus?
On n'a pas obtenu gain de cause parce que les non-indépendantistes... On est dans une négociation avec les non-indépendantistes, avec des responsables politiques qui ne partagent pas la même vision que nous. Donc, mais on essaie de trouver un équilibre. Et quand on dit que une fois que les compétences régaliennes sont transférées à la Nouvelle-Calédonie, toutes les compétences régaliennes sont transférées à la Nouvelle-Calédonie, les partenaires ainsi que l'État se retrouvent autour de la table pour examiner, pour tirer les conséquences de la relation entre l'État de la Nouvelle-Calédonie et la France. Ben, une fois que toutes les compétences sont transférées à la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que ça signifie en droit? Voilà.
C'est pas écrit, c'est pas dit, mais voilà, c'est l'interprétation, que vous en faites. Des précisions également dans l'accord complémentaire concernant le transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie aux provinces. C'est intitulé « L'attractivité économique ». Vous êtes favorable, vous, à ce transfert d'un certain nombre de compétences?
On a dit dans l'accord de Bougival qu'on allait droit vers une hyper-provincialisation et la partition du pays. Alors quand on regarde ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa, que des compétences qui sont exercées des compétences réservées à la Nouvelle-Calédonie peuvent être transférées aux provinces à la demande des provinces. C'est ce qui est déjà prévu dans l'accord de Nouméa, dans l'article 47 de la loi organique. Donc voilà, c'est ce qui a permis. Aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. Il y a une doctrine nickel dans la province nord, il y a une stratégie nickel en province sud. Il y a un code de développement de la province nord, un code de développement de la province sud, un code de développement de la province des îles. Est-ce que quelqu'un a crié partition du pays? Les provinces ont agi en fonction des compétences qu'ils ont eues octroyées par l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, on dit c'est aussi une compétence qu'on va donner aussi des compétences à la demande. Mais on dit également que s'il y a une province demande une compétence au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il faudra que ce soit le Congrès qui se prononce. Voilà. Donc, pour nous, il n'y a pas de partition du pays. Et on précise bien dans l'accord complémentaire que on parle plutôt d'attractivité économique. c'est la possibilité pour les provinces d'attirer des capitaux, d'attirer des investisseurs au niveau du pays pour le développement économique. Et on précise le développement économique et le rééquilibrage. Et le rééquilibrage, c'est important parce qu'on n'est pas là... Parce que si on va vers une hyper-provincialisation, ça va à l'encontre de la volonté de tous de faire pays, de construire un pays pour... Donc il n'y a pas d'idée de partition. Et donc l'attractivité économique permet aux provinces d'accentuer. Mais on parle également d'un mécanisme de solidarité. Le mécanisme de solidarité, il est maintenu. Alors le mécanisme de solidarité, c'est quoi ? Ben, c'est la clé de répartition. La clé de répartition...
Mais elle n'est pas fixée comme elle l'avait été dans les accords précédents.
Elle n'est pas fixée dans l'accord. Mais ce mécanisme de solidarité, il est maintenu. Donc cette clé de répartition, il est maintenu.
Alors dans l'accord complémentaire, il y a aussi tout un volet économique et social. Il est important. On voit même... Il va être mis en œuvre, a priori, même si l'accord n'est pas adopté. C'est un soulagement de voir cette aide de l'État ?
Bien sûr, c'est un soulagement. Bon, ça a fait l'objet des discussions entre nous à Paris lors de cette deuxième séquence qui a abouti au complément. Bien évidemment que les collectivités ils pourront avoir les moyens dans le cadre du budget de répartition qui a bien augmenté avec les aides qu'apporte l'État. Bien évidemment, alors maintenant si l'accord n'est pas si l'accord n'est pas adopté, s'il ne passe pas l'étape du Parlement, est-ce que l'État va retirer ses billes ? C'est la question qui est posée, je ne pense pas. Maintenant, il faut que la Calédonie s'engage à mettre en place les réformes. Il faut qu'on trouve les moyens de parvenir, de financer nos dépenses. Ça, c'est ce que nous demande l'État. Et ça, c'est une responsabilité qui nous appartient. Il ne faut pas qu'on... Il ne faut pas qu'on continuellement avoir recours à la France, qui a aussi des difficultés. C'est à nous aussi à faire des efforts. Donc c'est dans ce sens-là que les choses doivent se faire.
Vous avez trouvé une majorité au Congrès hier pour voter le budget 2026, donc c'est peut-être bon signe quand même.
Oui, tout à fait. Hier, le budget de la Nouvelle-Calédonie, le budget de versement, de répartition et le budget de POP ont été votés à l'unanimité. Le FLKS a voté...
C'est abstenu. Oui. Comment réagissent vos adhérents à ce nouvel accord ? Vous les aviez déjà réunis, vous les aviez informés sur Bougival. Là, vous les avez informés à nouveau sur l'accord complémentaire. Ils sont satisfaits ? Ils continuent à soutenir globalement ces accords ?
Pour nos militants, nous sommes revenus. Donc, on a tenu une assemblée générale à Puibo pour ce qui concerne le PADICA où on a expliqué l'accord complémentaire. En quoi l'accord complémentaire vient compléter l'accord de Bougival ? Donc, on a expliqué. L'UPM a tenu son comité central à Ponérimoin aussi. Nous avons tenu ensuite une réunion en format Union nationale pour l'indépendance avec l'association UNIT. On a expliqué. Nos militants nous ont suivis. Ils sont d'accord. Mais il faut continuer à expliquer. Et nous, on réorganise un séminaire samedi prochain à l'intention de nos responsables et nos militants. Parce qu'il y a besoin, au moment de la campagne municipale, de répondre aux questions des populations, s'il y a des questions concernant l'accord de Bougival et de son complément. Donc il faut que nos gens comprennent bien. Il faut continuer à faire de la pédagogie.
Surtout qu'il y a la constitution d'un groupe qui s'appelle le UPK, Union pour Kanaky. Ce sont en fait des dissidents de l'UNI, des gens de chez vous qui ne sont pas d'accord avec Bougival.
Oui, tout à fait.
Voilà, ça met dissidents. En cause l'unité du parti ou c'est un mouvement comme il peut exister qui ne va pas forcément durer très longtemps ?
Ben écoutez, on a des principes dans nos partis. Au niveau du PALICA, je parlais de l'Union du PALICA, on a des principes. On a des organisations locales que l'on appelle les sections de base, les comités régionaux. Et le débat doit se faire à ce niveau-là. Le débat doit se faire à ce niveau-là avant de venir en assemblée générale ou dans des séances plénières. Et le débat se fait aussi à ce moment-là. Le débat se fait. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui ont des avis un peu mitigés, il y a ceux qui... Et c'est le débat contradictoire qui se fait pour pouvoir ensuite dégager une position commune. Ces gens-là ne viennent pas au débat. Et donc, en ce moment, et à un moment donné, ils se positionnent contre les positions prises par le PADICA. Et donc, voilà. Donc ils sont
c'est une
dissidents.
Tentative de déstabilisation de votre parti.
C'est une tentative de déstabilisation. Ils sont... Nous, on leur dit tout simplement, il faut être correct. Si vous n'êtes plus d'accord avec les positions prises par le parti à l'unanimité lors d'un congrès, eh bien, vous n'êtes plus d'accord, eh bien, vous ne faites plus partie du Palikar, vous êtes libre de créer un autre parti ou d'intégrer un autre parti. Mais il faut être correct. Il ne faut pas dire que je ne partage pas les décisions prises par un congrès du Palikar, mais je reste toujours Palikar. Ça, ce n'est pas correct.
Et puis, Jean-Pierre Diaoui, il y a une autre question que je suis obligé de vous poser. Paul Néotine, vous êtes l'un de ses proches, il soutient Bougival ou il ne soutient pas Bougival? Parce qu'on a entendu dire qu'il émettait des réserves fortes, voire qu'il y était opposé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, écoutez, moi, je suis personnellement allé le voir après la signature de l'accord de Bougival. Moi, en tant qu'élu de la Promesse Nord et signataire de l'accord de Bougival, accompagné par les élus de la Promesse Nord, Madame Goa, Madame Eo, Madame Boinou, Madame Rissouké, on est allé le voir, je lui ai expliqué l'accord. Il a fait des observations. Il m'a fait des observations. S'agissant de l'hyperprovincialisation, du fédéralisme, de la partition, il m'a dit que l'accord de Bougival, c'est pas tout à fait la continuité de l'accord de Nouméa. Il m'a dit tout cela. Il a fait ses observations et je lui ai dit que nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes des, Adolphe et moi, signataires de l'accord de Bougival, nous avons été désignés par nos instances, l'instance politique. Et donc nous avons pris nos responsabilités, nous allons continuer à parcourir le pays pour expliquer. Et il m'a dit à ce moment-là, bon courage, il faut le faire. Et ensuite, on l'a rencontré avec Adolphe Digoué et Victor Tutugourou. Nous trois, nous l'avons rencontré, nous lui avons expliqué la voie du visuel. Il a fait ses observations et il a dit que lui, il s'est jamais défaussé. Lui, il a été négociateur de l'accord de Nouméa, et il signataire de l'accord de Nouméa, et tous les comités de signataires, tous les comités de suivi, tous les groupes de travail mis en place sur décision du comité de signataires, il était toujours présent, et il a dit, moi je ne me suis jamais défaussé, j'ai pris mes responsabilités, et il a dit, prenez vos responsabilités. Et nous sommes en train de prendre nos responsabilités en ce moment, et à aucun moment donné, j'ai entendu dire de la part de Paul Néotine qu'il était contre l'accord de Bougival.
Voilà pour cette précision importante sans doute, puisqu'il y a beaucoup de bruit qui circule pour l'instant. Le temps passe, Jean-Pierre Diaoui, il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, c'est bien sûr l'autre thème d'actualité, les élections municipales. L'UNI sera présente dans beaucoup de communes, dans toutes les communes. Comment est-ce que vous préparez ce scrutin?
Alors la nouveauté pour ces élections provinciales à venir, c'est que... Non, pour les élections municipales à venir, c'est que l'UNI sera présente dans toutes les communes.
Dans les 33 communes.
Dans les 33 communes. Cette démarche d'ouverture sera présente. Alors, elle sera intitulée différemment en fonction des réalités locales. Ça peut être UNI, tout simplement, ou ça peut être une autre démarche d'ouverture. Alors quand il y a les trois partenaires, c'est-à-dire Palika, UPM et l'association UNI dans une commune, ils peuvent être ensemble et ils forment donc UNI. Mais on peut ouvrir également à d'autres qui ne sont pas encartés dans un parti politique et qui ne sont pas forcément dans l'association UNID. On peut également ouvrir aux autres indépendantistes qui veulent travailler avec nous. Et on peut aussi également ouvrir aux militants de l'Union Calédonienne qui veulent travailler dans cette démarche d'ouverture. Parce qu'on veut construire un pays, on veut construire le pays avec tout le monde. Et donc, à un moment donné, ce sont des administrés qui veulent prendre des responsabilités pour s'engager à apporter ce dont a besoin la population. Donc voilà, on s'engage à prendre des responsabilités au sein de la commune.
Mais dans beaucoup de communes, vous serez face à des listes UC ou FLNKS, parce qu'eux aussi disent qu'ils seront là partout. C'est pas un peu gênant de vous retrouver? Ça vous permet de vous compter?
Non, c'est pas gênant, parce que dans les années précédentes, ça a été aussi le cas. Il y a eu, nous, quand on s'est présenté en tant que formation Palika ou formation en format UNI, eh bien, il y a toujours eu d'autres indépendantistes, d'autres listes indépendantistes là. Ce qui va se passer dans les prochaines élections municipales, il n'y a pas de nouveauté. Quoi.
Même dans les communes de l'agglomération où l'électorat indépendantiste est plus faible, est-ce qu'il ne va pas y avoir une déperdition pour vous d'avoir plusieurs listes indépendantistes face à face?
Oui, c'est. Mais aujourd'hui, nous avons, pour ce qui nous concerne, la volonté de nous afficher dans toutes les communes C'est un défi. Et donc, une décision qu'on a prise, on assume.
Quel est l'enjeu de ce scrutin municipal ? Au-delà des communes elles-mêmes, on a l'habitude des scrutins en Calédonie, c'est partisans de la France ou indépendantistes. Là, ça va être en plus pro-Bougival ou anti-Bougival. Vous pensez que ça va être l'un des éléments de cette campagne municipale ?
Certains qualifient les échéances municipales de juges de paix, ceux qui sont pour ou contre Bougival. Mais les élections municipales sont d'abord des élections de proximité où les gens qui s'engagent à apporter des réponses aux problèmes que rencontrent au quotidien nos populations. Et dans les moments difficiles aujourd'hui, la première chose qui vient en tout cas, c'est de faire en sorte à ce que on puisse mettre en œuvre les politiques publiques de nos provinces, de nos municipalités, de nos communes. Mais pour le faire dans de bonnes conditions, il faut avoir les moyens financiers pour le. Et donc aujourd'hui. La première grande question qu'il faut, c'est de faire en sorte à ce que on puisse maîtriser les coûts de fonctionnement de nos collectivités. C'est important pour pouvoir mettre en œuvre ensuite les collectivités, les politiques publiques de nos. Mais c'est sûr que une élection, qu'elle soit communale ou provinciale, c'est toujours une élection et c'est éminemment politique.
Justement, c'est un peu une répétition avant les élections provinciales, puisqu'elles n'ont pas eu lieu depuis mai 2019. Ça va permettre peut-être d'avoir une meilleure appréhension de la carte politique ?
Oui, tout à fait. Je crois que ça va jouer, ça va refonder l'échiquier politique de la Nouvelle-Calédonie, c'est sûr.
Vous-même, vous n'êtes pas engagé dans ces municipales cette année ?
Moi, je ne suis pas engagé dans les municipales.
Vous allez participer à la campagne quand même ? Vous allez aller soutenir certaines listes ?
Je vais soutenir certaines listes à leur demande. S'il faut être là pour apporter des explications concernant l'accord de Bougival, on sera là, on participera à la campagne.
Et en attendant, vous allez suivre de près le cheminement législatif de la réforme constitutionnelle ?
Oui, tout à fait. On va suivre de près... ce qui va se passer au Parlement, surtout à l'Assemblée nationale.
Et c'est mardi au Sénat, en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu, la ministre a dit qu'il serait présent.
Oui, tout à fait.
Jean-Pierre Diaoué, chef de groupe UNI au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter votre invitation dans ce magazine.
Merci bien.